As Boris Johnson throws down the general election gauntlet, what's next for the biggest month in British political history? With the best team of political journalists in Westminster, turn to The Telegraph for clarity. Subscribe now at telegraph.co.uk.
Vous écoutez RMC.
Salut Paulo Breitner.
Bonsoir Nicolas, bonsoir messieurs.
Salut, bonsoir Nicolas. Bien, on s'est régalé, on a vu un enfin régalé. Nous on a vu ça d'un œil avec tous les matchs de Ligue 1 également. 4-0 victoire du Bayern ce soir. Face au Borussia.
Presque autant de buts qu'en Ligue 1 hein, Polo, sur un match.
Ils ont pas besoin de coach Polo finalement, ils se gèrent.
Mais c'est en fait.
Ils ont un coach.
Mais c'est ça qui est très intéressant. Bon, déjà, sur le match, quand même, c'est très intéressant. Parce qu'ils ont complètement écrasé le Borussia Dortmund, j'ai envie de dire, presque traditionnellement. L'année dernière, ils en avaient mis 5. Il y a 2 ans, ils en avaient mis 6. Donc, c'était quand même assez intéressant.
Polo diminué, ouais, le Borussia, quand même.
Le Borussia est un petit peu diminué. Ouais. Mais attends, il n'y a pas de défense centrale non plus au Bayern Munich. Hein, les Hernandez sont pas là. Ce qui est super important, je pense, on en avait parlé un petit peu, c'est la compo du Bayern Munich. C'est-à-dire que Thomas Müller et Goretzka à la place de Coutinho et de Thiago Alcantara, c'est acté en fait, et donc c'est quand même un signe très très fort par rapport à ce que faisait Niko Kovac. Moi, ce qui m'a fondamentalement plu dans cette rencontre, en dehors d'une ambiance extraordinaire qu'on n'avait pas vue à l'Allianz Arena depuis longtemps, qui faisait un petit peu la tête, on va dire ça comme ça, c'est que ils avaient faim, ils étaient sur tous les ballons. Dortmund a été complètement dominé. On a eu un Thomas Müller auteur de 2 passes décisives, et encore une fois Lewandowski, 16 buts en 11 matchs de Bundesliga. Il est en train de se rapprocher. Il est sur une tendance largement supérieure à celle de Gerd Müller.
J'ai juste une inquiétude. C'est que c'est vrai que Robert, on l'attend souvent. On sait que c'est un grand buteur en Bundesliga. Il n'y a aucun situation. On sait qu'il va finir la saison entre 25, 30, voire plus. Là où on l'attend, c'est pour faire franchir un palier au Bayern depuis quelques années. J'ai peur que sa petite opération qui est apparemment prévue, le coupe dans son élan.
Je voulais avoir ton avis là-dessus, parce que j'entends beaucoup de gens dire que Thomas Müller est fini. Bon, je dois avouer que c'est un de mes 3 joueurs préférés en activité, Thomas Müller.
J'adore ce joueur.
Et il a quand même que 30 ans. Et là, de le voir remis dans l'axe derrière l'attaquant, je me dis que c'est pas possible. Il va redevenir le Thomas Müller qu'on adore, quoi.
Alors, c'est très compliqué Thomas Müller, parce que quand même, c'est vrai que par rapport à son gabarit, par rapport à sa façon de jouer extraordinaire, d'une intelligence hors norme, c'est un joueur qui, si tu veux, il rentre pas dans les cases. Hein. Donc, quand je l'ai vu débarquer à 20 ans,
Raum d'auteur.
Oui, mais il a plusieurs surnoms, mais
très caractéristique.
Ouais. C'est surtout aussi quelqu'un de très caractériel, c'est-à-dire que c'est un vrai bavarois. Hein. C'est-à-dire, si Niko Kovac est parti, si Carlo Ancelotti n'est plus là, il y a aussi, parce que Thomas Müller est là aussi. Hein. C'est pas neutre. Hein. Donc c'est dans une grande tradition bavaroise. C'est quelqu'un qui apprécié par tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que depuis l'Euro 2016, il était un peu en perte de vitesse. Et là, il était sur le banc, mais à chaque fois qu'il rentrait, il était performant. Et beaucoup de personnes se disaient, OK, soit Coutinho, soit Müller. Le problème, c'est quand Müller est là, il est meilleur que Coutinho, qui sait, on va le dire d'une façon très simple, hein, c'est un peu dégonflé quand même. Hein. Et je passe sur ces tirs à 25-30 mètres, qui font toujours briller les gardiens adverses, mais c'est toujours un peu compliqué. Thomas Müller, il a faim en ce moment. Et ce qu'il fait, la passe qu'il fait extraordinaire pour le deuxième but de Lewandowski, c'est quand même assez extraordinaire la façon dont il est à la limite de hors-jeu systématique. Moi j'adore ce joueur, il est extraordinaire parce que c'est pas un buteur, parce que c'est un 9,5 mais pas la Djorkaeff, est un peu différent.
Non, c'est ses déplacements qui sont importants.
Ses déplacements, la façon dont il se positionne entre les lignes, etc. Il a eu une période très compliquée, mais c'est intéressant.
Il a que 30 ans.
Tiens, Polo, Benjamin Pavard qui enchaîne les matchs, hein, voilà, titulaire à chaque fois, et qui est décisif également. Pavard pour Lewandowski, il a quoi, 2 buts, 2 passes cette saison de Sega. Comment on l'analyse, que, évidemment,
quoi,
ça ne se dit pas qu'avec les stats.
Il est dans l'axe.
Latéral droit.
Il est derrière droit.
Bon, il n'y a pas que les stats qui comptent, évidemment. Je sais que c'était un peu sceptique. Voilà,
sur la
capacité de Benjamin Pavard à s'imposer au Bayern, sauf qu'il joue et il est décisif. Dis-moi.
Non mais déjà il joue parce que Lucas Hernandez est blessé et parce que Süle n'est pas là. L'autre paramètre qui est en place, et que j'avais pas prévu à l'époque, c'est que le Bayern Munich, donc le directeur sportif Salim Itzig, n'a pas trouvé le numéro 6 que souhaitait Niko Kovac. Donc c'est pour ça qu'il remonte Kimmich en position de numéro 6. Et donc ça donne une place évidemment derrière à Pavard. Le problème, c'est qu'un, il est très très mal noté par la presse allemande, donc ça c'est quand même pas moi.
Systématiquement.
Ah bah ça dépend. Non mais quand tu me gagnes 4-0 comme ça, on va pas te mettre 6. Oui. Quoi. C'est, en Allemagne ça va de 1 à 6. Mais le comme à l'école. Et le si tu veux, quand tu vois l'ensemble de ces matchs aujourd'hui, il est quand même plutôt en négatif par rapport au positif. Le problème c'est que nous on voit les buts et on dit ah, c'est
France,
génial.
On voit les buts, c'est génial, il a le sourire. Voilà.
C'est une escroquerie ce joueur.
Ouais, tu vas un peu loin.
Tu vas un peu loin parce qu'il est encore jeune.
Non mais qu'il soit au Bayern Munich, c'est pas normal. Il a un bon manager. Mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais qu'il soit au Bayern Munich, c'est quand même incroyable. Mais bon, je préfère le laisser Paulo parler, il est sur place.
On peut parler de Pavard, tout ce que vous voulez. Moi, je sais c'est très négatif par rapport à l'ensemble de ses prestations, quand il perd des duels, quand il est à 1m50 de son adversaire direct, oui. Ou des choses comme ça, ou que lorsqu'il fait des fausses passes ou des fautes à 20-25 mètres de la surface. Mais il compense un petit peu par ses buts. Voilà, maintenant il a que 23 ans. Le problème, c'est qu'il est arrivé de Stuttgart où... voilà, l'équipe est descendue en seconde division, on l'a pas vu au-dessus du lot.
Il a été catastrophique même.
Ah, surtout Stuttgart était catastrophique dans l'ensemble. Et c'est d'ailleurs une surprise qu'il soit descendu. C'était une équipe qui était construite pour aller chercher l'Europa League au minimum, quoi. Et donc, il profite, il joue. Donc, on va pas se plaindre. Maintenant, ceux qui disent que je suis trop critique par rapport à Pavard, moi, je dis simplement que le Bayern Munich, c'est pas une association caritative, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
Vas-y.
Au bout d'un moment, quand tu es au Bayern, non mais je le dis d'une façon très simple, parce que les gens, il y a beaucoup de personnes. Mario Gomez s'est quasiment planté au Bayern Munich, il y a des grands joueurs, c'est le cimetière des Bavarois qui devaient réussir au Bayern, il y en a plein. Hein. Et moi, si tu veux, les gens ils signent au Bayern et on a l'impression que c'est arrivé. Non, quand tu signes dans un club comme ça, le plus dur, c'est de faire ta place.
T'es peut-être dur avec Mario Gomez au Bayern quand même.
C'est un autre débat. Polo, je voulais parler avec toi également de la victoire du RB Leipzig. 4-2 sur la pelouse de Hertha Berlin. D'abord, bon, doublé de Timo Werner. D'abord pour les images d'avant-match qui ont fait le tour des réseaux, qu'on a vu ici. Je rappelle, ce sont les 30 ans de la chute du mur de Berlin. C'est aujourd'hui, hein. 9 novembre 89, 9 novembre 2019. Superbe avant-match. Un mur avait été, un faux mur, hein, en tout cas un mur en plastique, je crois, a été monté sur le terrain. C'était un spectacle fabuleux.
Alors, c'est évidemment un spectacle fabuleux, c'est très symptomatique de ce qui s'est passé il y a 30 ans, parce que, ne l'oublions pas, le Hertha Berlin est le club, on va dire, de l'ouest de l'Allemagne, oui. Et puis Leipzig, qui était un club de l'est de l'Allemagne, et surtout une ville révolutionnaire, et c'est là où c'est parti, en fait, la chute du communisme, c'est la fameuse église Saint-Nicolas, mm-hmm. qui est très très belle d'ailleurs, et donc si tu veux, cette rencontre de hasard du calendrier, en fait, est assez impressionnante à ce niveau-là, donc... Il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé pendant 30 ans. Il y a beaucoup de publications aujourd'hui de livres sur depuis la destruction, enfin la fin du communisme en 89 et puis l'officialisation de la réunification en 90. Ce qui est intéressant, c'est que le match n'a pas été mal du tout, même si le Hertha est pas bien. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde dans le stade et que l'histoire est en train de se déconstruire et c'est intéressant tout ce qu'on voit. Voilà. Mais si tu veux, je travaille depuis un an et demi sur cette thématique et le dire en 10 secondes, c'est compliqué, quoi.
Oui, c'est compliqué, mais c'est passionnant. En tout cas, de superbes images.
Il y a quand même eu un pillage très clairement de l'Allemagne de l'Ouest, enfin le football de l'Ouest sur le football de l'Est. Quoi.
Tu vas nous sortir un bouquin, Polo, là ?
Pardon ?
Tu vas nous sortir un bouquin ou quoi ? Tu nous annonces un bouquin en avant-première ?
Je ne réponds pas.
Ah, on a la réponse, super. Ah ouais, décidément, les drôles de dames. Hein.
Ça se tire la
qu'est-ce qu'elles sont ah ouais, qu'est-ce qu'elles sont productives, les drôles de dames.
Non, mais par rapport à Zidane, si tu veux, si un jour ça sort, ce serait plus.
Pas sûr que tu fasses Bruce Toussaint sur BFM un jeudi soir. D'accord. Mais bon, moi, ça m'intéressera. Je lirai. Je sais pas si Fred nous écoute avec plus d'intérêt que le Zidane. Mais j'ai commencé le Zidane, hein, il est très bien. De Fred Armel. Merci Polo.
Ciao Polo.
Excellente soirée à toi, bien sûr. Salut Fred Armel.
Hola chicos.
Comment salut, ça va? En direct salut. De Brive, monsieur.
Vous savez, les auditeurs de l'After, j'en ai rencontré, mais des dizaines et dizaines aujourd'hui, puisque j'ai l'honneur et la chance d'être invité par la Foire du Livre de Brive à dédicacer mon livre Zidane, qui est paru mercredi chez Flammarion. Et je vous assure, 90% des gens qui venaient au stand de Flammarion pour me voir me disaient « Hola chicos
ah, !»
Ça va l'After.
Mais oui, bien sûr.
Mais je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Tout le monde me parle de l'After. De l'After, de l'After, de l'After.
C'est une marque.
Ils me demandaient tous des secrets sur vous tous. Alors, bien entendu, je n'ai pas révélé.
Je
dis que c'était secret.
Je crois pas. T'as dû révéler.
Ben non, parce que j'ai quand même des dossiers sur tout le monde, donc je ne peux pas le dire.
Oh, mais vraiment. T'as une saloperie sur Joe, quoi. Non.
Son meilleur ami de la fleur, Jonathan McCartney.
Mais je vous assure que notre émission est une insulte. substitution, ça on le savait déjà, vous avez eu la une de SoFoot. Mais ah ici, ouais. Mais tout le monde me parle de l'after, c'est un truc de fou.
Quoi. On va le dire
et dans
également.
Les dédicaces, ouais. ils me disaient tous, ils me disaient, écris-moi Hola Chicos dans la dédicace. Voilà.
Très bon. Bah, si t'avais dit ciao, bonasera, bonsoir, ça aurait été étrange aussi. Mais bon,
ça aurait été un faux et usage de faux.
C'est ça, exactement. Rappelons également la SoFoot, un super travail de SoFoot à lire sur récit, ouais. Les coulisses de l'after, les 14 ans de l'after, avec beaucoup de témoins dont tu fais partie, Fred, bien sûr. Voilà pour ton bouquin, Zidane, même si tu sais qu'on n'a pas le droit de faire la promo de ton bouquin hein, dans des missions dans lesquelles tu
passes. Non, mais alors vous pouvez le gagner parce qu'il y a une opération. Regardez le tweet.
Et bah, tu sais quoi, Fred,
de RMC.
On aura un quiz en fin d'after. Tu peux t'engager à le faire gagner ton livre.
Ah mais bien sûr, parce que mais c'est un truc officiel, sérieux, entre Flammarion et RMC.
Et allez, on
fait gagner mon livre aux auditeurs d'RMC.
Appelez-nous, voilà. 3216, quiz spécial OM-OL en fin d'after, avec un t-shirt de l'after à gagner, plus le bouquin, le livre Zidane, signé Fred Armel. Fred, L'Oréal a gagné aujourd'hui, grâce notamment... Bon voilà, hein, je te sers la soupe à chaque fois, souvent quoi, hein, notamment un doublé de Benzema. L'Oréal,
le Pichichi.
Ouais, Pichichi, meilleur buteur, doublé, Ramos également, et Valverde, le jeune Valverde, quelle semaine pour lui. 4-0 sur le terrain d'Eibar, Ludo.
Il est dans la forme de sa vie, Karim.
Benzema.
C'est incroyable, non?
Non, mais Karim Benzema, c'est le meilleur buteur du Real Madrid, c'est le meilleur passeur, c'est le joueur qui, aux statistiques, a participé... de toute la Liga, c'est le joueur le plus décisif de tous les joueurs de la Liga, plus que Messi. Si on calcule le nombre d'implications de Karim Benzema au niveau des buts et au niveau des passes décisives, c'est le joueur qui apporte le plus de points à son équipe. Et moi, j'aimerais replacer le match de... Parce que même si je t'abrive, j'ai regardé, bien entendu, le match du Real à Eibar. J'étais, bien entendu, mercredi soir à Bernabeu face à Galatasaray. Ces deux matchs, ce sont 10 buts marqués, 0 encaissés. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, les amis. Le Real a retrouvé la faim. A retrouvé la faim, F-A-I-M. Mmh. A retrouvé l'envie. Ils se sont défoncés sur le terrain. Et mercredi soir, j'étais avec Zizou, bien entendu, puisque nous avions la chance de l'avoir en exclusivité pour la France sur RMC Sport. Et le message le plus important que m'avait transmis Zizou, c'est... Tu sais, Fred, on menait 4-0 à la mi-temps. Mmh. Et après, les mecs, ils sont venus avec une faim de loup parce qu'ils voulaient... faire un résultat encore plus fort.
Ah, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au débat qu'on avait tout à l'heure sur le PSG.
Il y a la fin, parce que le Real avait perdu la fin pendant plus d'une saison, vous le saviez.
Non, mais Fred,
et là, ce soir...
Vas-y.
Oui, non, mais ce soir, enfin cet après-midi à Eibar, je vous rappelle simplement, les gens disent « Ouais, c'est Eibar, oui. » L'année dernière, ils ont pris 3-0.
Non, t'as raison, Fred, là-dessus.
Fred, on a eu un débat tout à l'heure, assez animé, sur le PSG. Le PSG qui, depuis les 3 semaines, gagne ou joue petitement. On dit, nous ici, tout le monde n'est pas d'accord en tout cas sur les réseaux, qu'une victoire avec des champions se construit dès le mois d'octobre, dès le mois de novembre. Toi qui as suivi le Real et qui a gagné 3 fois la Ligue des Champions, c'est 3 fois ces 4 dernières années.
Parce qu'on a dit, l'état d'esprit de vainqueur, petit à petit au cours de la
saison. Oui, c'est ça se construit maintenant, les gars.
Qu'une équipe.
Moi, je vais vous dire quelque chose, les amis.
Elle doit savoir en mettre 4 contre Eibar et elle doit savoir en mettre aussi.
On a dit, ouais, voilà.
Ça commence à se bosser maintenant pour être vraiment à maturité.
Ouais, mais je vais vous dire une chose qu'on dit en Espagne. Et c'est un collègue de Marca l'autre jour que justement j'ai interviewé pour la télé, pour RMC Sport 1, qui avait une réflexion que je trouvais magnifique en disant, il me disait, les grands clubs se mettent en marche avec le changement d'heure.
Ouais. Mm-hmm. Ouais, c'est bien trouvé ça. Ouais.
Et regardez le Barça qui ce soir gagne 4-1. Regardez le Real qui gagne 4-0 à l'extérieur, alors que jusqu'ici, il perdait des points face à des petites équipes, que jusqu'ici, il perdait des matchs face à des petites équipes. Par exemple, le Real qui perdait à Majorque, le Barça qui perdait à Grenade. Mais là, vous savez, les équipes qui sont trop fortes début septembre ne tiennent pas le coup jusqu'au bout.
Il faut savoir monter
les équipes qui commencent à être bonnes au mois de novembre, c'est là où ça marche. Et je peux vous assurer que ce qui plaît le plus à Zidane, et j'insiste là-dessus parce que Zidane est quelqu'un qui connaît parfaitement le football et qui connaît son vestiaire, la fin de ses joueurs. Parce qu'à Eibar, le premier but, ils vont chercher le deuxième. Le deuxième, ils vont chercher le troisième. Le troisième, ils vont chercher le quatrième. Et ils auraient pu gagner 4-5-0. Là, ils ont perdu 3-0 la saison dernière.
Ludo.
Alors, je vais pas vous dire que le Real va tout gagner cette saison, mais il y a de très nombreux
matchs.
C'est
la dynamique qui est intéressante.
Il y a plus d'un an que je ne voyais pas des joueurs qui avaient envie de gagner, qui avaient les crocs, qui avaient la haine. Et ils ont ça. Et puis Karim Benzema, mais en fait, il faudrait faire une émission il faudrait faire une page Benzema chaque émission. Le mec, il a encore marqué 2 buts aujourd'hui après avoir marqué 2 buts et avoir rejoint Alfredo Di Stéfano.
157e but.
Ouais, mais c'est un truc. Et là, aujourd'hui, il a rejoint Puskas. Ce mec, Vous savez, celui qu'un certain Mourinho traitait de chat est en train de battre les records des plus grandes légendes de l'histoire du Real Madrid.
Fred,
il s'appelle Karim Benzema, il est français.
Ludo. Moi, juste Fred, j'ai une petite question. Je vois le Real mettre des corrections depuis maintenant 2-3 semaines à tout le monde.
Oui.
Ils enquillent les buts et je ne vois pas Eden Hazard dans Eden Hazard.
Il a obtenu le péno. Il a obtenu le péno.
Alors, paradoxalement, j'ai l'impression qu'il est quand même bon. Mais
aujourd'hui, Ludo, aujourd'hui, c'est le meilleur match d'Hazard depuis qu'il est au Real Madrid. Moi, j'étais au stade, bien sûr, contre Galatasaray.
Zidane dit qu'il était impressionnant, mais bon, voilà.
À la première période, il n'a pas encore totalement le fond physique pour être excellent pendant 90 minutes.
D'accord.
Mais aujourd'hui, pendant 50, 55 minutes, ça a été vraiment Eden Hazard. Franchement, l'autre jour, au stade, parce qu'il y a des matchs qu'on voit à la télé, il y a des matchs qu'on voit au stade. Et moi, quand je les vois au stade, j'aime bien regarder les joueurs qui nous importent plus. Karim Benzema, Raphaël Varane, et puis là, en l'occurrence, Eden Hazard, qui en plus est un mec très sympa, vous le savez, autant que moi. Eden Hazard est en train de prendre sa forme. Et l'autre jour, il y a une quinzaine de jours, j'étais en direct, bien entendu, sur le plateau des RMC Sport, et on avait sorti une statistique. Hazard est toujours mauvais dans ses débuts de saison.
C'est
à partir de. Mais à Chelsea, c'était pareil, à Lille, c'était
pareil.
C'est quelqu'un.
C'est pareil.
Bah voilà. Et donc, il y avait en plus ici le problème de l'intégration au Real Madrid qui n'est pas facile, parce que peut-être qu'il n'avait pas pris conscience qu'il était dans le plus grand club du monde et qu'on ne pouvait pas arriver avec 4-5 kilos de trop, qu'il aurait fallu un petit peu de plus travailler. Mais là, physiquement, il est mieux. Et là, il commence surtout dans sa tête à se libérer. Il tente des choses techniques qu'il n'osait pas il y a encore quelques semaines. Mais sincèrement, je voudrais pas faire mon pro-Real de base. Mais cette équipe, l'équipe que j'ai vue mercredi soir, l'équipe que j'ai vue ce soir, c'est l'équipe des 3 victoires en Ligue des Champions. Celle qui ne lâche rien.
Ok, Fred. Merci, Fred.
Salut, Fred.
Merci, les amis. J'étais très ravi de vous parler. Je vous assure que ça va se terminer tard parce qu'il y a des gens merveilleux ici et il y a partout des auditeurs de l'After. Donc je suis un petit peu le commercial de l'After auprès des supporters.
Tu leur fais la bise. Merci Fred, excellente soirée à toi.
Adios, Ticos.
Ciao. J'accueille maintenant Julien Laurent. Salut Julien.
Salut Nico, salut à tous.
T'es en soirée toi.
Je suis pas en soirée, mais j'ai fait un spectacle ce soir à Belfast. Et malheureusement, j'ai pas pu rentrer à l'hôtel à temps, donc voilà.
Attends, t'étais sur scène ou t'as
un peu de monde derrière moi.
T'étais spectateur ou t'es allé voir un spectacle?
J'étais sur scène, effectivement. J'étais sur scène, j'ai fait un genre de podcast en direct sur scène avec questions des spectateurs, 500 personnes. C'était plutôt sympa.
Excellent,
quel talent. Raconter quelques histoires marrantes, quoi, tu vois.
Quel talent, et t'as été aussi bon que dans le match de l'After ou pas?
J'ai été pas mal.
Alors, parlons d'abord de Unai Emery et d'Arsenal qui perd ce soir sur la pelouse de Leicester 2-0. Est-ce que ça craint, je vais directement vers le sujet, est-ce que ça craint pour Emery, Julien?
Alors pour l'instant, on continue de me dire qu'il n'est pas menacé, qu'il restera encore sur le banc, qu'il reste encore beaucoup de matchs à jouer, que la situation peut s'améliorer, que le jeu peut s'améliorer, qu'il y a eu des circonstances un petit peu atténuantes, comme le problème avec Xhaka, comme le problème avec Ozil, et que le club a encore confiance en lui. Néanmoins, la défaite d'aujourd'hui, après déjà les 4 derniers matchs nuls, n'oublions pas qu'ils avaient fait match nul contre Victoria Guimarães, qu'ils avaient fait match nul contre Crystal Palace après avoir mené 2-0 à domicile. Tous ces matchs-là aussi font que la pression est quand même en train de s'intensifier un peu sur lui. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas encore le feu vraiment à la maison Arsenal, mais c'est vrai que les résultats sont assez inquiétants, et surtout l'écart qui est en train de se créer entre Arsenal et le 3e et le 4e, et la Ligue des Champions qui est impératif pour le club pour des raisons financières déjà, autant que le standing. Est en train de s'échapper un petit peu très tôt dans la saison.
Avec un PP encore remplaçant aujourd'hui pour Arsenal. Chelsea, deuxième, sixième victoire consécutive pour Chelsea. Tout va bien, encore Tammy Abraham qui a marqué son 10e but cette saison.
Effectivement, tu as raison. Il y avait eu cette frayeur contre l'Ajax en Ligue des Champions mardi soir, où même s'ils sont revenus au score à 11 contre 9, à 11 contre 11, ils avaient quand même été largement dominés par les Hollandais. Et c'est vrai qu'il fallait rebondir, même contre Crystal Palace, même à domicile, ils ont fait une performance sérieuse. C'était pas exceptionnel, mais c'était ce qu'il fallait pour gagner. On a encore vu un but de Pulisic qui est vraiment en train de monter en puissance.
Oui.
On parlait tout à l'heure d'Hazard avec Fredo. C'est son remplaçant et lui, il commence vraiment à montrer des choses, pied droit, pied gauche, dans l'attitude, dans l'énergie aussi qu'il transmet. Et techniquement, à un moment, il rate une occasion en premier temps, il met un crochet exceptionnel du pied gauche dans la surface. Et c'est vrai que l'apport de Pulisic en ce moment est vraiment très intéressant pour Chelsea. Ils grandissent, ils gagnent en maturité, ils gagnent en confiance, ils ont une dynamique super positive et ça va vraiment être intéressant de voir jusqu'où ils peuvent aller cette saison.
Et demain, 17h30, le choc, Liverpool City, Julien.
est-ce que je pose la question, si Liverpool gagne, est-ce que c'est quasiment plié? Parce que je regarde, hein, City désormais 25 points, Liverpool en cas de victoire 34 points, ça fera 9 points d'écart, je vais trop vite. Julien.
Alors c'est peut-être un tout petit peu rapide, même si les Anglais. Alors,
on t'écoute Julien.
Donc les Anglais disent tu peux pas gagner le championnat au mois de novembre, mais tu. Excuse-moi, je te disais, tu peux pas gagner le championnat au mois de novembre, en revanche, tu peux peut-être le perdre. Et tu peux comprendre la nuance. Les Anglais disent que c'est aujourd'hui, ce Liverpool City est le plus grand match en Europe parce que c'est les deux meilleures équipes européennes. Et je pense que, même s'ils sont un petit peu chauvins, je pense qu'ils ont raison. Et c'est vrai que le match de demain, tu te demandes comment chaque entraîneur va l'approcher, parce qu'au final, un match nul, finalement, Liverpool garderait son avance de 6 points. Manchester City resterait à 6 points, ce qui est loin d'être rédhibitoire pour le titre de champion, par exemple. Alors que si tu commences à prendre des risques et que tu t'inclines, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes qu'en cas de match nul. Rappelez-vous la saison dernière, hein, par exemple. À Anfield, déjà, on avait vu un bon vieux 0-0 où clairement, les consignes des deux coachs, c'était on va pas prendre trop de risques, on va se calmer. Si on fait match nul, c'est une mauvaise opération pour personne et on sera tous très contents. J'ai un peu peur que demain soit pareil. En revanche, si c'est pas pareil, si les deux entraîneurs disent il faut absolument y aller, on va y aller à fond, là je pense qu'on peut avoir un match assez exceptionnel en termes d'intensité, en termes de talent, même si la défense de City avec ses absences, maintenant même si Ederson dans les buts est lui aussi absent, forcément on aimerait que les deux équipes soient à 100% avec leurs meilleurs joueurs, mais c'est vrai que s'il n'y a pas ce match nul un petit peu conservateur, je pense qu'on peut assister à un match assez super.
Merci beaucoup Julien.
Ciao Julien.
Excellente soirée à toi. Et merci parle de ciao. L'after à Belfast, hein, surtout. Excellente soirée à toi.
Bien sûr.
Ciao.
As Boris Johnson throws down the general election gauntlet, what's next for the biggest month in British political history? With the best team of political journalists in Westminster, turn to the Telegraph for clarity. Subscribe now at telegraph.co.uk.